Moi, un jour, j'ai redit, parce que je l'avais déjà dit à mes parents que j'avais été incestée, et je l'ai redit à table en décrivant de manière crue comment ça s'était passé, et ma mère a proposé à ma sœur de se resservir de la salade. Un truc comme ça.
Salut, bienvenue sur Silence Radio. On est ensemble pour une bonne heure et moi c'est Rita.
Moi c'est Fantomette.
Et moi c'est Malou, salut.
Et ben, on est ici aujourd'hui pour cette émission pour parler d'un thème un peu spécifique, c'est la silenciation dans les vécus d'inceste. C'est-à-dire un peu les moments quand tu vis de l'inceste, quand t'es enfant ou plutôt jeune, et que t'essaies d'en parler, ou en tout cas que ça se manifeste, ça existe dans comment ton corps il existe dans l'espace, ça existe dans tes émotions, ça se voit, et que plutôt les personnes autour de toi ne l'entendent pas, ne le voient pas, ne le prennent pas, ou en tout cas se refusent à le faire, et c'est ça qu'on appelle la silenciation.
Pour aller jusqu'au bout de nos réflexions et creuser le thème, on vous a préparé 3 émissions, on espère que vous aurez envie de nous écouter jusqu'au bout.
On s'est rencontrés tous les 3 au sein d'un groupe de parole sur l'inceste, où du coup on se voyait une fois par mois pour parler de nos vécus, donc on est tous les 3 concernés par cette thématique. On s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que ce groupe de parole était finalement un peu plus un groupe d'auto-support, dans le sens où on prend soin de nous, où on se fait de la solidarité sur les conséquences traumatiques qu'on a liées à ces vécus d'inceste, par exemple les conséquences sur notre santé mentale ou notre santé physique. Aussi, on s'apporte du soutien par rapport à aujourd'hui les relations qu'on peut avoir ou pas avec nos familles, ou par exemple conséquences d'avoir porté plainte pour certaines personnes. Voilà, en tout cas, on peut se soutenir sur des choses. On peut aussi se proposer à des moments de faire, par exemple, cette émission de radio. On s'est proposé au sein de ce groupe-là ou d'autres choses. En fait, on s'est rendu compte, quand on parlait dans ces groupes de parole, que même si on venait de vécus très différents et de même si on n'a pas eu les mêmes vies, il y a plein de moments où il y a une personne qui va raconter une histoire, par exemple, « Ah, moi, ma daronne, à tel moment, elle m'a dit ça. » Et on se rend compte qu'en fait, il y a, pour beaucoup de gens, c'est beaucoup les mêmes phrases, les mêmes mots. Il y a beaucoup de choses qui sont vécues, qui sont très similaires. Et du coup, ça fait se rendre compte, moi, déjà qu'on n'est pas seul, alors qu'on se sent souvent très seul, très isolé, on se rend compte en fait que finalement on n'est pas si seul. Et aussi, on se rend compte que l'inceste, c'est des mécanismes qui se répètent et qu'en fait, c'est pas juste notre famille qui fonctionne comme ça, mais l'inceste, c'est un système. C'est la société aussi qui fonctionne d'une telle manière qui fait que nos histoires sont quand même très communes, très similaires. Et du coup, on a eu envie de faire cette émission où on va parler à la fois de témoignages, de vécu personnel et à la fois des analyses politiques qu'on ressort de tous ces témoignages, de nos vécus à nous et aussi de tout ce qu'on a pu lire et entendre par ailleurs.
On va parler d'un point de vue féministe, queer et anarchiste. Et par anarchiste, on entend la lutte contre toutes les dominations, dont la domination des adultes sur les enfants. On vous redit que donc on va parler d'inceste et de maltraitance familiale. Ce sont des sujets difficiles, mais on va essayer de faire en sorte que ces analyses nous permettent de reprendre du pouvoir sur nos vécus, que ça puisse nous soutenir et nous renforcer.
Ouais, et c'est un vaste sujet, donc pour partir d'un endroit un peu clair, on va essayer de se donner des petites définitions, et on va commencer par la définition de l'inceste. On va vous lire la définition de l'inceste qui a été écrite par AIV, donc c'est l'Association Internationale des Victimes de l'Inceste, et c'est une définition un peu longue, mais vraiment pas mal. L'inceste concerne la famille de sang et la famille élargie, ainsi que la famille par adoption. Mais le lien familial est avant tout pour la victime un lien de proximité, d'autorité, de confiance, de dépendance et d'amour. Ainsi, les agresseureuses peuvent être, dans la famille de sang, père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère, oncle, tante, cousin, la notion de cousin n'est d'ailleurs pas présente dans la législation, cousine, et même dans la famille par alliance, beau-père, belle-mère, oncle par alliance, etc. Entre les mineurs, même un an d'écart peut suffire à établir un lien d'autorité.
Alors là, à cet endroit de la définition, il y a toute une liste détaillée des actes de viol et d'agression sexuelle.
on vous épargne cette lecture-là, ce petit bout-là, parce que c'est pesant. Et on va continuer en continuant à détailler les actes qui sont un peu moins consensuels, qui sont un peu moins connus quand on parle d'inceste et qu'on a envie de discuter aussi.
L'inceste, c'est aussi tout ce qui concerne l'exhibition sexuelle, ou inceste moral, ou inceste sans contact physique. Les actes de faire l'amour devant son enfant, parader nu, tenir des propos à caractère sexuel, visionner des films pornographiques avec son enfant, sont considérés comme relevant de l'inceste. Utiliser son enfant comme confident, confidente de ses aventures sexuelles, le la photographier nu ou dans des situations érotiques également. L'inceste, c'est aussi, sous couvert d'actes d'hygiène, l'agresseuse qui assouvit ses pulsions en pratiquant des toilettes vulvaires trop fréquentes, des décalotages à répétition, des prises de température inutiles plusieurs fois par jour, des lavements, etc. Et ce, jusqu'à un âge avancé de l'enfant dans une relation dans laquelle l'enfant est un objet sexuel.
Pouf, c'était intense!
Oui, on n'aurait qu'à s'écouter une petite musique.
Ouais, ça a l'air clairement pas mal. Juste une petite note de retour sur la définition, qu'on aime beaucoup, on la trouve super complète. Par contre, on a une petite critique. La définition, elle dit que c'est pas possible pour une personne plus jeune d'incester une personne plus âgée. Et nous, on pense, enfin, on sait, parce que c'est déjà arrivé, que c'est possible. Et aussi, on avait envie de dire que l'âge, c'est pas la seule donnée qui existe comme rapport de pouvoir dans l'enfance, que l'enfance, elle est aussi traversée d'autres rapports de pouvoir, notamment le genre, la race, la classe, la sexualité, l'âge, le handicap, et que tout ça, ça existe, et que ça vient rajouter des données supplémentaires.
Ok, nous revoilà. Du coup, on continue et on va un peu continuer à se mettre d'accord sur c'est quoi l'essence qu'on met derrière les mots qu'on utilise dans l'émission. Donc, on peut se dire que la silenciation, c'est tous les processus de réduction au silence. C'est comment une personne ou un groupe de personnes s'organise pour étouffer la parole d'une personne ou d'un groupe de personnes victimes de violences et fait en sorte qu'elle ne soit pas entendue ou reconnue. Généralement, les mécanismes de silenciation, ils se mettent en place au moment où il y a l'inceste, que ce soit les actes ou le climat incestuel, donc plutôt dans l'enfance. Ici, on propose de réfléchir à comment ces mises au silence, elles se prolongent à l'âge adulte. En fait, ça reste galère de se faire entendre, même quand on est adulte, et ça, ça continue de rendre encore plus deep nos blessures, et ça nous empêche de guérir.
Et plus que nous empêcher de guérir, moi, je trouve que ça rajoute aussi de la blessure quand, en fait, en tant qu'enfant, on n'a pas été cru, on n'a pas été entendu, on n'a pas été protégé et que, à l'âge adulte, quand on vit, par exemple, une amnésie traumatique et que nos souvenirs reviennent et qu'on retourne voir nos familles pour en reparler ou en parler et que là, on n'est à nouveau pas cru, à nouveau pas entendu, à nouveau pas protégé, bah, ça peut rajouter de la blessure. Et moi, j'ai la sensation que autour de moi, par exemple, j'ai vu plusieurs des personnes qui m'entouraient avoir leur santé mentale qui se dégradait beaucoup après justement avoir essayé de reparler à leur famille et s'être sentie pas entendue, pas protégée par leur famille une fois adulte.
Ouais, grave. Je pense que ce que tu dis, c'est un peu la base de pourquoi on a voulu faire cette émission. C'est d'abord de constater à quel point cette dynamique, c'est un truc qui prend de la place en nous et chez nos proches et les gens qu'on aime. Mais par ailleurs, on est une autre raison pour laquelle on a envie de faire cette émission, c'est parce qu'on est convaincu politiquement que c'est pas quelque chose qui concerne nous et nos proches et nos amis. C'est quelque chose qui existe un peu, qui a un fondement de la société, dans le sens où on vit dans une société qui est construite sur le patriarcat, la culture du viol, la domination adulte. Et quant à une famille, toutes ces violences, c'est le premier lieu où elles viennent s'incarner, où elles viennent exister. Et donc l'inceste, c'est pas un fait divers, c'est une violence structurelle qui suffit pas seulement de nommer une fois ou deux fois ou trois fois pour réussir à la briser. C'est un peu la force de la silenciation autour de l'inceste, c'est que le nommer, ça suffit pas à le détruire. Et donc c'est ça qu'on a envie de regarder aujourd'hui et c'est à ça qu'on a envie de s'attaquer aujourd'hui, cette puissance de la silenciation.
Dernière chose avant de rentrer plus dans le vif du sujet, la silenciation, c'est du coup pas que dans les cas d'inceste, c'est ce qu'on a expliqué dans la définition, ça marche aussi pour d'autres oppressions, ça marche aussi pour d'autres maltraitances. Nous là, on va parler de ce cadre précis de la silenciation dans le cadre familial. Du coup, c'est un rapport quotidien, un rapport où il y a de la dépendance, de l'emprise. Du coup, c'est toutes ces phrases, ces réflexions, ces attitudes, ce déni, tout ce qui se passe qui fait que pris peut-être un par un, ça peut sembler parfois anodin ou banal ou inconscient, subtil, etc. Mais en fait, tout mis ensemble, ça participe à un climat de la silenciation et à une silenciation tout court, chaque chose qu'on va décortiquer est problématique en soi, même si ça peut paraître pas très grave comme ça, tiré de toutes les situations. Certaines, parce qu'on va aussi parler de situations qui sont quand même juste en soi très, très grave. On a envie de faire cette émission aussi pour décortiquer toutes ces choses-là et les analyser, pour les comprendre, pour déjà se sentir moins seul, pour se donner de la force, pour réussir à capter c'est quoi qui nous est arrivé, c'est quoi qui nous arrive, et aussi pour pas les reproduire, parce qu'on n'est pas exempt de ça aussi. Et voilà, se donner de la force et lutter contre.
Votre honte empaillée, ma soif de vérité, votre peur tout autour. sont contre vous, contre votre courant. J'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai bien brassé du vent pour savoir une chose, ce que je suis vraiment. Laquelle des deux en somme, l'origine ou la cause. Et forcer face à l'absence, la réponse est l'effort. De faire sans, de faire sans. Si vous saviez combien savoir est salutaire, qu'au regard du passé le présent devient clair. Mais vous attendez là que les absents aient tort, qu'ils nous habitent et qu'ils nous hantent et nous dévorent. Vous ne protégez que votre tranquillité, l'honneur de vos racines et votre dignité, au détriment du reste et de la descendance. Je n'ai pas eu le choix, j'ai donc scié la branche.
Hello, bon retour après Buridan et la chanson Electrochoc. On va un peu commencer notre émission. Ce que vous allez entendre, c'est une alternance entre des moments de discussion sur des catégories qu'on a délimitées à propos de la silenciation. Des fois, c'est des catégories auxquelles on croit qu'on a bien définies, mais qui parfois font que notre réflexion, elle se croise, elle se recoupe, et on espère que dans tout ça, ça vous parlera, et que vous y trouverez des choses. On a lancé un enregistreur, en fait, et on s'est papoté. Au milieu de tout ça, vous entendrez aussi des témoignages qui ont été récupérés pendant la semaine à Fort-Calquier en octobre 2023. Le festival s'appelait Pour en finir avec l'inceste, et aussi quelques copaines qui ont participé, et donc on remercie beaucoup tous ces gens. Vous entendrez aussi quelques musiques, parfois pour lâcher un peu prise et respirer. On vous souhaite une bonne écoute.
C'est la menace.
La menace. C'est vrai que ce qui est intéressant dans la menace, c'est que c'est un peu le premier truc, je pense, qui vient à la tête des gens quand ils pensent à ce qui fait de la silenciation. Un truc un peu cliché qui serait de l'ordre de « tu parles pas, sinon je ». Et c'est des trucs qui arrivent, mais moi, je trouve que c'est... Pour moi, la menace, c'est compliqué d'en parler. En même temps, c'est extrêmement simple parce que c'est un peu de manière cliché, quoi, de silencier. Mais clairement, qui arrive très, très régulièrement en même temps, donc... Vous en pensez quoi, vous ?
Ouais, bah moi j'ai l'impression que pour qu'il y ait une réponse de si tu parles, je te et la menace, j'ai l'impression que ça veut déjà dire qu'il y a une prise en compte du fait qu'il y a eu des violences qui ont été commises et que c'est pas si fréquent que ça en arrive à ce stade-là de reconnaissance. J'ai l'impression que c'est déjà de la reconnaissance.
Ah, ou pas, parce que ça peut être aussi ne parle pas, personne te croira. Pour moi, ça c'est de la menace. Personne va te croire. Et personne ne va te croire parce que c'est faux. Enfin, de toute manière, tout le monde sait bien que t'es folle, tout le monde sait bien que du coup, c'est toi qui passeras pour une personne, je sais pas quoi. Moi, j'ai l'impression que la menace, elle arrive. Enfin, j'ai l'impression que dans les clichés qu'on a, c'est en premier lieu les agresseuses qui menacent aussi de parle pas, sinon je vais aller en prison. C'est aussi de la culpabilisation, mais sinon tu vas tuer ta mère, sinon tu vas blablabla.
Tu vas devoir partir très loin. Tu pourras pas rester dans ta famille ou je sais pas, plein de formes de genre, trucs qui font peur aux enfants, là, de le rapport à un truc de famille fragile et d'aller t'appuyer là-dessus.
Ouais.
À la menace de porter plainte pour diffamation aussi, qu'on a vu. Enfin, nous, on a un ami qui a vécu ça dans sa famille, le daron, il porte plainte pour diffamation alors même que la personne en a parlé juste à sa famille, enfin, à pas parler ouvertement à tout le village ou je sais pas quoi, à juste parler à sa famille. Et le père a porté plainte pour diffamation. Ça, c'est de la menace très claire. Après, ça n'a rien donné parce que justement la personne n'avait pas parlé largement, du coup il n'y avait pas de diffamation, il n'y a pas de...
C'est vrai que dans la menace il y a aussi un peu ce truc de chantage affectif, quoi. En fait, si tu parles, Ça va détruire la famille et plutôt tu pourras plus trop venir aux fêtes de famille
et tu vas te retrouver seule.
Menaces et chantage affectif qui sont un peu croisés là dans cet endroit-là de perte, perte affective et parfois perte matérielle. Genre, on te mettra dehors parce qu'on ne croira pas, tout le monde va penser que t'es folle, tu vas finir dehors ou des trucs, enfin, de perdre du... de la réalité matérielle relativement confortable, en tout cas plus confortable.
Ouais. J'ai l'impression ce qui peut exister, c'est la menace aux héritages aussi, de « Ah, mais tu veux pas ta famille, et ben t'auras pas l'héritage non plus. » Ce qui finalement, en fait, dans la loi est quand même pas si simple, c'est pas facile de déshériter un enfant. En fait, c'est vraiment des démarches très compliquées. Du coup, en fait, c'est souvent des menaces qui amènent pas, qui aboutissent pas.
Tout à l'heure, j'ai dit que la menace, c'était cliché, mais je pense que c'est vrai dans un truc d'imaginaire général, mais je crois aussi que la menace, c'est extrêmement efficace. Peut-être c'est pour ça que c'est la seule qui est un peu reconnue comme silenciation qui existe.
Puis j'ai la sensation que des fois, il peut y avoir une menace pernicieuse, mais qu'on ressent comme une menace de ce truc de retrait d'amour. Moi, j'ai l'impression de... que ça peut être plus, c'est pas forcément dit genre si tu parles, si tu critiques ton père, je vais cesser de t'aimer, c'est pas exactement ça qui est dit, mais on sent quand même que on a une menace qui pèse de, en fait on sait bien que si on parle, la personne va quand même nous en vouloir. Bah déjà il y a la menace quand même très concrète, je pense qu'on est plein à vivre de, si tu parles c'est toi qui vas dégager de la famille, on est plein à savoir ça, à s'en douter, en fait, quand on commence à parler, qu'en fait, certainement, c'est nous qui allons de toute manière nous faire dégager. Mm. Ça, c'est quand même une menace de, en fait, si tu fais du mal au groupe, c'est toi qui dégages de ce groupe. Mm. Ça, c'est quand même des menaces un peu... qui sont pas dites clairement. Personne te dit, en fait, si tu la ramènes trop avec ton histoire de viol, tu ne seras plus invité au repas de famille. Personne ne te dit ça. Mais en fait... enfin, je sais pas, pas personne, c'est pas vrai, il y a plein de gens qui disent ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que dans moi, de beaucoup d'histoires que j'entends, c'est pas vraiment ça qui est posé, mais en fait, la menace, elle plane. Parce qu'on voit bien, en fait, qu'on est de moins en moins invité, que. Qu'on fait chier, quoi.
Et ça devient gênant aussi, j'ai l'impression, de, pour les personnes de la famille, de maintenir cette position-là, de dire, bah, t'es la victime, mais en fait, t'es quand même la personne qui dérange. Et que du coup c'est hyper en demi-teinte quoi, ce truc aussi, comment l'entourage de la victime, il peut ancrer hyper fort chez la victime une peur de représailles. Et moi il y a une cousine qui m'a raconté que quand elle était petite à table, elle a parlé de ça, et donc il y avait aussi son agresseur à table, mais elle était petite donc elle l'a dit avec des mots vraiment d'enfant, et elle s'est pris une baffe quoi. Elle s'est pris une baffe et donc du coup, aujourd'hui, c'est une personne qui n'a pas du tout tenu un discours de dénonciation par rapport à son agresseur, avec qui elle continue d'être dans les fêtes de famille et tout. Mais du coup, il y a aussi, de manière assez primaire, la menace de « en fait, ferme ta gueule, sinon tu vas te prendre une baffe, quoi. » Enfin, je sais pas, c'est aussi...
Physique.
Mais ce qui est au-delà de la menace, là, pour moi, c'est... On est déjà dans les représailles. C'est même pas la menace des représailles. C'est là, elle parle, elle a déjà... elle se fait déjà agresser physiquement pour... elle se fait réagresser pour avoir essayé de parler. Oui, oui. C'est déjà dans les représailles.
Ouais.
Mais c'est plus que de la menace.
Oui, voilà.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce cadre-là, qu'en fait, il n'y a pas que la menace qui joue dans la silenciation, il y a aussi directement les représailles très concrètes.
Ouais.
Alors, bon, cette fois, on est à table, en famille. Donc, il y a mes enfants qui sont ados, mes parents qui sont plus vieux, et moi, donc, genre 43 ans. Et on parle de drogue. Et super conversation, les enfants qui expliquent pourquoi la drogue, ça les intéresse pas et tout. Et on s'en va, ma mère et moi. Et ma mère me dit, ouais, quand même, la drogue et tout, c'est les fréquentations, machin, qui amènent à ça. Et je sais pas, elle me dit un truc genre, toi, toi, tu as eu une enfance heureuse, en fait. Enfin, je comprends pas, c'est quoi le problème avec la drogue ? Et je dis, ben non, mais en fait, j'ai eu une consommation de drogue, mais je crois pas que c'était juste par rapport aux potes, en fait. C'est juste parce que j'avais un mal-être et que, ah bon, mais non, mais quand même, il est où ton mal-être ? Et j'étais obligée de lui rappeler, en fait, de lui dire, ben non, en fait, c'est passé ça, et je crois que c'est quand même lié.
On va essayer de parler de la banalisation et la normalisation quand on essaye de parler d'inceste qu'on a vécu, quoi.
C'est un peu toutes les petites manières, et je pense que c'est très connecté avec des trucs de climat incestueux aussi, toutes les petites manières où l'inceste et les dépassements de limites et de cadres, je sais pas comment dire ça bien là, que constitue l'inceste sont genre normalisés. Que c'est normal. Un truc par exemple que j'ai appris tard dans ma vie, c'était que c'était pas normal que tous les oncles de ma vie flirtent avec moi depuis mes 12 ans. Flirt, c'est un mot horrible pour discuter, ça fait un truc de réciprocité, c'est pas ça, mais me drague, parce que ça avait été tellement banalisé, c'est-à-dire il y a une absence de réaction quand il y avait des adultes de 15-20 piges de plus que moi qui draguaient une personne qui à l'époque était plutôt une gamine de 10 ans et que personne autour réagissait. Bah ça banalise un climat d'inceste où des adultes peuvent rentrer dans des endroits de séduction avec des personnes jeunes, des enfants de leur famille. Et ça, je pense, c'est très commun.
C'est que, encore une fois, l'inceste, c'est pas un monstre dans une famille.
Non.
En fait, l'inceste, c'est une famille entière qui est concernée. C'est rare, enfin, ça peut arriver que, par exemple, c'est un beau-père et que le reste de la famille est pas... Je sais pas, peut-être ça peut arriver, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai la sensation que c'est plutôt souvent toute la famille qui est concernée par des dynamiques incestuelles, incestueuses, et que du coup, les personnes ne voient pas le problème parce que trouvent ça effectivement normal, parce que c'est vraiment ce qu'elles vivent aussi, c'est ce qu'elles ont vécu enfant, c'est ce que leurs parents ont vécu, c'est ça dans toute la famille. Du coup, c'est toutes les petites réflexions de, par exemple... ah bah oui, mais c'est normal qu'on découvre la sexualité avec nos cousins et nos cousines. Comment ça c'est normal, enfin, alors qu'on vient confier un viol qu'on a vécu avec notre cousin ou notre cousine, ou de dire oui, bon bah c'est des jeux d'enfants, oui bah on a tous joué au docteur, on n'a pas tous agressé nos frères et sœurs, on n'a pas tous été agressés sexuellement par nos frères et sœurs. Enfin, c'est pas... Et du coup, c'est de venir penser que c'est tellement la norme, parce qu'en fait, c'est la norme de ta propre famille, du coup, d'avoir la sensation que c'est la norme. Et du coup, c'est le moment où toi, tu critiques quelque chose et que tes parents, ta fratrie ou les gens de ta famille ne voient même pas le problème, en fait.
Mm-hmm.
Ne voient même pas qu'il y a un souci. Parce que pour eux, c'est tellement une évidence que c'est ça et que c'est ça partout. Ils voient même pas qu'il y a un problème dans ce que tu es en train de raconter.
Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il y a vachement ce truc que l'inceste, il est tellement partout que quand t'arrives... En tout cas, moi, quand j'ai réussi à dénoncer ces trucs-là, tu t'adresses à une génération d'adultes qui a tellement, elle aussi, baigné d'une certaine manière là-dedans, que les réponses, ça peut être « Bah oui, mais moi, ça m'est arrivé aussi. Enfin, je vois pas où est le problème. » Et tellement... Enfin... Tout le monde a l'air tellement d'être concerné par ça que ça fait même pas exception. Vraiment, ça fait partie du paysage. Et du coup, c'est genre, bah, de quoi tu te plains, en fait, enfin. Et dans cette banalisation, il y a presque un truc de... Ouais, à la fois de considérer que c'est pas grave et presque parfois dans certaines bouches de... Bah, même, c'est un peu amusant. Ah, toi aussi, t'es passé par ce... Ouais, un espèce de rite de passage, quoi. Ah, toi aussi, ça t'est arrivé.
Et moi, je pense que... Quand on est enfant, ce qu'on voit autour de nous, mais c'est ce que, par exemple, tu disais, Fantomètre, sur le fait que tes oncles te sexualisent et qu'il n'y a aucune réaction des gens autour. Moi, j'ai l'impression de grandir dans une famille où, en fait, Mon oncle marche main dans la main avec sa fille, lui met des mains au cul et l'embrasse dans les repas de famille. Bah, en fait, ça silencie parce qu'on a la sensation, ça nous ancre à nous aussi un truc de normalisation. Que du coup, c'est pas problématique. Tu peux être à la fois parent d'un enfant et à la fois amant du même enfant. C'est comme ça, c'est la vie, ça existe. Et du coup, après, quand t'essayes de parler en disant « mais non, c'est pas normal, enfin, ça devrait pas l'être, ou ça peut être traumatisant, c'est traumatisant », en fait, ça rentre aussi, je pense, dans les trucs d'auto-silenciation ou d'auto-censure, de ne même pas voir que c'est problématique, parce que tellement c'est normalisé autour de toi qu'il n'y a aucune limite sur qui sexualise qui pour, enfin, dans la famille. Il n'y a plus aucun rôle, l'inceste c'est souvent ça, c'est les rôles qui sont complètement perturbés, que tu ne sais plus qui est le parent, qui est l'enfant, qui est l'amant, qui est frère ou sœur, ou il y a des grosses différences d'âge dans les relations amoureuses entre les gens, il y a de la sexualité avec des personnes avec qui légalement tu n'as pas le droit de partager, enfin il y a des viols en fait dans tous les sens, enfin c'est...
Ouais. Pardon, ça me fait vraiment penser. J'ai l'impression d'avoir vécu genre le paroxysme de ça le jour où mon daron, qui ne se rendait pas compte, mon daron qui moi m'a pas agressé du tout, qui je pense se rendait pas compte de à quel point il baignait dans le système inceste, qui m'a dit quand j'avais 12 ans, tu sais, j'ai pas envie de coucher avec toi. Et je me disais, mais quel degré d'imprégnation de la culture de l'inceste, dans quel degré d'imprégnation et de normalisation de la culture de l'inceste tu dois être pour te sentir obligé de préciser à ton gamin que t'as pas envie de coucher avec, ce qui est censé quand même être une donnée de base des organisations familiales un peu, en tout cas nommées. Et ça, je trouvais que c'était... Enfin, ça m'a toujours beaucoup choqué. Je pense qu'il l'a dit sincèrement pour me rassurer. Parce qu'il se rendait compte que pas mal d'autres gars dans la famille plutôt insinuaient ou faisaient ça. Sauf que par ailleurs, il y a plein d'autres choses qu'il n'a pas fait, mais je trouve que ça dit beaucoup pour moi cette phrase de l'intériorisation totale par un adulte qui, par ailleurs, je crois pas, était dans des trucs d'agression, mais quand même complètement défoncé par ça et complètement complice de ça, de fait.
Ouais.
C'est dingue, moi, je trouve.
Moi, ça me fait penser là en discutant que l'oncle et la tante de mon agresseur, qui donc est un cousin par alliance, ils sont cousins germains et ils sont mariés, ils ont 3 enfants et ça n'a jamais été questionné dans la famille. C'est un truc normal, quoi. C'est officialisé et ils se marient, et en plus dans une famille religieuse où c'est possible de se marier entre cousins, finalement.
Mais il y avait un truc que tu disais que je voulais rebondir. Oui, parce que ça m'a fait réaliser que j'ai l'impression que quand tu parles d'inceste, justement, en fait, il y a à la fois une normalisation qui fait que le climat incestuel est souvent peu reconnu par les gens avec qui tu parles de ces situations-là, mais aussi que quand même les gens sentent qu'il y a quelque chose de problématique. Bon, peut-être ça va plus dans le déni, mais que moi j'ai l'impression, parce que mon père m'a dit ça aussi très rapidement quand je lui ai parlé de l'inceste que j'avais vécu, qui n'est pas par mon père. Ah mais moi j'ai jamais eu de désir sexuel pour toi, j'aurais jamais, enfin j'aurais pas eu de la sexualité avec toi, un truc comme ça. Et pareil, ça m'a hyper choquée de pourquoi ça vient là, mais je pense que les personnes, quand tu commences à parler de ces histoires là aussi, se rendent compte qu'en fait il y a des trucs partout dans tous les, enfin, ou en tout cas je pense inconsciemment savent que c'est un peu dans plein de dynamiques dans tous les sens et ont peur de eux-mêmes se rendre compte qu'en fait ils ont fait des trucs qui allaient pas, ou que tu leur reproches des trucs qui allaient pas, ont tellement pas envie de se voir comme ça que direct, bon, c'est de la déresponsabilisation,
oui, c'est ça.
Direct ils se mettent à l'écart de ça et direct en fait ils ont en tête de mais est-ce que moi j'ai fait ça, est-ce que moi j'aurais pu faire ça.
Moi, je pense, je vois des bouts de ce que tu dis. Moi je pense que ça me fait réfléchir aussi sur moi, j'ai vraiment interprété mon père comme voulant me rassurer de la manière la plus foireuse possible. Mais je pense que c'est aussi...
Il se rassurait lui.
Mais oui, je pense que j'ai été trop gentil, je pense, avec lui. Parce que bon, c'était déjà... Je sais pas, c'était déjà plus de reconnaissance, quelque part, que pas mal d'autres adultes.
Oui.
Il y avait quelques phrases qu'on avait un peu réfléchi autour de la validation, que j'ai quand même envie de dire parce que je les trouve très significatives, même si elles sont un peu clichés aussi. Bon, dans la banalisation et la normalisation, il y a
toutes ces phrases qui sont « l'âge c'est dans la tête », « l'amour n'a pas d'âge », qui je pense viennent dans l'inceste et viennent aussi dans un truc de pédocriminalité qui peut, enfin de, ouais, de, mmh. de violence sexuelle d'adultes sur mineurs, pas de la même famille, mais qui je pense peut prendre vraiment beaucoup de pouvoir dans certains espaces.
Mmh. Parce que là, j'y donne accès à certains privilèges et qui font accéder à un certain rôle social qui te permettent ou pas d'avoir des droits, en tout cas des moyens d'action.
Il y a le côté légal, ouais. Il y a l'expérience aussi. Comment tu traverses.
Bah, il y a l'expérience, mais il y a aussi l'âge que, en fait, ça joue la manière dont la société te voit en fonction de quel âge t'as sur ta carte d'identité, si t'as une carte d'identité. Ça joue sur, oui, qu'est-ce que t'as le droit et qu'est-ce que tu n'as pas le droit, mais ça joue aussi énormément de choses sur l'ascendance que tu peux avoir sur des gens aussi. Enfin, par exemple, si t'as une relation avec une personne plus jeune, et ben en fait... Peu importe si la personne plus jeune a beaucoup d'expérience ou que toi-même qui a 20 ans de plus n'en a pas beaucoup, en fait, il y a quelque chose que pour moi, on ne peut pas ne pas prendre en compte dans c'est quoi cette société et dans une lecture très matérialiste, très systémique de la société, c'est que en fait, ça joue forcément sur comment tu te mets en lien avec une personne quand cette personne a 20 ans de plus que toi ou quand... L'âge, c'est pas que dans la tête, c'est pas vrai. Ça imprègne, en fait, toutes les relations. C'est sûr.
Non, mais je crois que tu l'as assez bien dit, hein, que l'âge, c'est une donnée de pouvoir indéniable.
Ouais. Et qu'en plus de ça, dans une société sexiste, il y a quand même une romantisation hyper forte des rapports de domination. Et où, du coup, il y a un truc de... C'est censé... être un truc
désirable,
d'être une petite chose dominée ou d'être à l'autre bout, quoi.
For an
L'année dernière, j'ai décidé d'écrire une lettre à mon grand-père pour lui expliquer pourquoi je lui parlais plus, en dénonçant et en nommant l'inceste. Et ça me tenait à cœur de la lire à ma mère. Mais c'est vrai que j'avais un peu peur de sa réaction, même si c'était déjà des choses auxquelles on avait parlé. Mais je considère pas que c'est une personne très safe avec qui parler de ça. Et du coup, je lui ai donné la lettre, elle l'a lue, elle a pleuré. Elle m'a dit que ça la touchait beaucoup. Et puis 2 minutes plus tard, elle m'a dit « Ah, mais hier, quand même, il y a un truc qui m'a rendu triste. Tu sais, quand tu m'as demandé le consentement, quand je t'ai fait un bisou. » Et moi, je suis pas comme ton grand-père. Moi, je te fais pas ça. Et elle m'a pincé les seins et elle a rigolé. J'ai rien pu dire. Ça m'a fait beaucoup de mal.
C'est un bon gros morceau de la silenciation qui est la déresponsabilisation. Je sais pas si on sent donner un peu un bout de définition, mais d'une manière générale, c'est quand les gens prennent pas leurs responsabilités qui souvent sont assez énormes quand il s'agit d'inceste et que c'est la famille de la personne incestée ou les proches.
Et du coup, ils trouvent plein de manières de justifier qu'ils n'ont pas entendu ou qu'ils n'ont pas voulu voir ou pas prendre en compte. Ou alors qu'ils considèrent que, bah voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Ils ont fait le max. Et puis nous, on doit s'en tenir à ça, quoi.
C'est que j'ai l'impression aussi, dans l'inceste, on a l'impression que la personne coupable, c'est la personne incesteuse, voire des fois la personne incestée, mais comme si tous les gens autour n'avaient pas vraiment une responsabilité. Or, l'inceste, ça se passe dans le cadre familial, et quand il y a un cas d'inceste, toutes les personnes autour sont directement concernées. Mmh. Ça veut dire que toutes les personnes, à un moment, permettent l'inceste, ou... ça dépend, après, enfin, moi, j'ai envie de faire une différence entre les gens qui sont adultes ou enfants à ce moment-là, mais par exemple, les adultes, par exemple, je sais pas, tu te fais incester par ton oncle, en fait, tes parents ont clairement une responsabilité très directe. Et du coup, les parents, quand ils apprennent ça, qui te croient ou pas, ils vont avoir tendance à se dire « Ah mais oui, bah c'est la faute de l'oncle. » Quand bien même ils te croiraient, quand bien même ils trouveraient qu'il y a un problème, ils vont quand même se trouver que c'est la faute de l'oncle, et ils vont peu voir, eux, les responsabilités qu'ils ont eues à ce que l'inceste puisse avoir lieu, puisse durer. Et du coup, voilà, moi j'ai l'impression qu'on est beaucoup à se heurter au fait que les personnes ne voient même pas, en fait, qu'ils ont une responsabilité dans l'affaire.
Mais c'est clair, moi je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très très blessant, cette espèce de refus collectif de voir la... En fait, je pense que ça, c'est un bout politique comme un bout personnel, mais le refus collectif d'à peu près, enfin, de moi, de beaucoup de ce que j'entends autour de moi, de beaucoup de familles, de voir la famille comme un système, comme un groupe avec un fonctionnement collectif qui a des effets sur chaque personne du groupe. Et ça parle d'inceste, et ça peut être d'autres dynamiques de violence ou des dynamiques qui existent. Vouloir minimiser, ça peut être de la part des parents ou de figures un peu de responsabilité dans la famille, de vouloir minimiser le pouvoir qu'il y avait d'intervenir, de parler, de changer, de modifier la situation, de faire de la reconnaissance, de la prise en compte, de protéger en fait la personne. c'est pas forcément conscient, ça peut aller par exemple avec des formes de déni ou de réécriture de la réalité et de dire bah t'étais une petite fille si heureuse, t'étais un enfant si joyeux, donc tout allait bien, j'avais rien à faire, j'avais rien à modifier dans la situation. Et moi je crois que c'est des trucs qui me rendent un peu zinzin comme manière de penser les responsabilités.
Et je pouvais pas savoir aussi quoi. Si t'es un enfant qui est visiblement heureux, moi j'ai aucun élément qui me permet de savoir qu'il y a un truc grave qui est en train de se passer quoi.
Et moi je trouve que c'est quelque chose de blessant parce que ce qui blesse dans l'inceste, c'est non seulement les actes qui ont été commis sur nous, mais aussi le climat. Et le climat, c'est aussi nos proches qui l'entretiennent. Enfin, c'est pas que la personne incesteuse qui pose ce climat-là, c'est toute la famille en fait. Et du coup, quand les gens se déresponsabilisent de leur propre, leur propre rôle dans l'histoire, ben, en fait, ils reconnaissent pas non plus du coup tout le climat qu'ils ont perpétué. Et aussi, moi, j'ai l'impression que ce qui peut être blessant, c'est à la fois d'avoir vécu des choses très dures à vivre, mais en plus de se rendre compte un peu que les gens savaient, ou ouais, de pas avoir été protégé, c'est une énorme blessure aussi. Et du coup, voilà, moi, j'ai l'impression que la déresponsabilisation, par exemple, ça peut être de dire « Oui, mais c'était une autre époque, j'ai été construit autrement, j'avais pas les clés, j'avais pas les clés d'analyse » pour comprendre ce qui se passait, parce que c'était une autre époque. Aujourd'hui, on parle, aujourd'hui, on protège les enfants, mais moi, à mon époque, j'ai pas appris ça. Quand j'étais enfant, je n'ai moi-même pas été écoutée. Du coup, c'est normal que j'ai pas pu voir. Moi, je doute pas de la sincérité de certains de ces propos-là, mais je trouve que quand on a vécu de l'inceste, on a besoin d'entendre de « Oui, je n'ai pas agi, je suis désolée, qu'est-ce que tu as besoin comme réparation ?» et pas de dire « Écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Moi, j'avais pas les éléments. C'était une autre époque. Déjà, le c'était une autre époque, je pense qu'il tient pas parce qu'il y a des gens à toutes les époques qui ont protégé leurs enfants, qui ont réagi, qui ont pris leurs responsabilités. Et quand bien même t'avais pas les clés d'analyse, t'avais pas les billes, tu peux quand même aujourd'hui prendre tes responsabilités parce qu'aujourd'hui on est dans cette époque. Aujourd'hui, on parle un peu plus d'inceste.
Ouais, et puis peu importe, en fait, j'ai l'impression. Les excuses qu'une personne peut se trouver, enfin, demander à une personne qui a vécu de l'inceste et qui a été silenciée à cause de ça, d'avoir de l'empathie et de trouver des excuses avec des personnes qui ont été complices de la violence que tu as subie, c'est rajouter un degré de violence énorme. C'est pas. Peut-être des personnes, des amis, d'autres personnes dans leur vie, c'est des gens avec qui ils pourraient avoir ce genre de discussion. Mais moi, en tout cas, je sais que c'est des choses qui ont pu m'arriver, qu'on me demande de l'empathie pour l'inaction et l'indifférence. Et j'ai trouvé que c'était d'une violence dingue. Mmh. Je refuse cette empathie à ces gens. Enfin, j'ai envie de m'autoriser à leur refuser.
Et surtout, je trouve que ça crée vachement un truc d'inversion des rôles. Où toi, en tant qu'enfant, on te demande d'avoir la place et le rôle de l'adulte qui aurait dû savoir dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, savoir poser des limites. Comme si j'avais dû être mon propre parent et la personne capable de dire en fait non, là c'est pas ok ce qui se passe.
Ouais, bah en tout cas j'ai l'impression que ça parle aussi d'adultification à un moment, ce que peut-être ce que tu disais, mais de se déresponsabiliser en te remettant à toi en tant qu'enfant la responsabilité de c'est tu aurais pu aussi agir dans la situation. Moi ouais, c'est une des manières de se déresponsabiliser en disant tu aurais pu dire non, tu aurais pu me dire. Par exemple, j'ai l'impression que ça, c'est un truc qui revient souvent de « pourquoi tu me l'as pas dit ?» Donc, ce qu'on entend par dire, c'est en gros « pourquoi tu n'as pas nommé en étant enfant avec un truc très précis de ce qui se passait ?» Parce qu'en fait, il y a plein de manières de dire et de parler et il y a énormément d'enfants, en fait, qui parlent pas forcément en disant « mon oncle, il m'a touché à tel endroit ». C'est pas forcément ça qui est dit, mais en fait, c'est parler, c'est discuter. Il y a, par exemple, des personnes qui deviennent très mal à l'aise avec une autre personne. Enfin, des enfants qui, par exemple, veulent plus voir telle ou telle personne du jour au lendemain dans la famille. Enfin, il y a plein de manières, en fait, que les enfants ont de parler.
Qui deviennent insomniaques, tout d'un coup.
Qui deviennent insomniaques, qui somatisent ou pas. Je pense une famille où vraiment c'est ouvert et les enfants parlent s'il y a la place de parler. Du coup, même si les enfants n'ont pas parlé, moi je pense que la famille a une responsabilité. Mais du coup, c'est aussi de remettre, ça pour moi c'est aussi de la déresponsabilisation, de adultifier, de penser que l'enfant avait le pouvoir dans sa tête de comprendre ce qui se passait, de comprendre que c'était pas normal, d'avoir la place pour le dire. Et que du coup, c'est de sa faute, c'est lui qui aurait dû à un moment dire voilà, mamie, quand elle me prend les bains, elle fait ci et ça avec moi, c'est pas normal, je suis pas contente. Enfin, c'est de, d'adultifier les enfants et de leur demander une conscience de ce qui se passe qui est assez énorme. Et ça déresponsabilise de... Ben non, en fait, toi, en tant qu'adulte, quelle place t'as laissé pour que ton enfant, s'il est mal à l'aise d'une situation, il puisse venir t'en parler, en fait.
Et surtout, et genre, quel rôle t'as joué en tant qu'adulte pour que l'enfant, il considère qu'il n'y a rien à raconter parce que tout ça est ressenti comme étant normal en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, genre le climat incestuel, c'est vraiment genre le continuum de la violence sexuelle, en fait... il y a tellement de petits bouts de trucs incestuels que l'inceste en lui-même devient même plus un truc à dénoncer. Et du coup, quel rôle les adultes ils jouent aussi pour nous laisser nous habituer à tous ces micro-trucs qui, au final, peuvent parfois amener à des faits d'inceste. Il y a une déresponsabilisation par rapport au climat incestuel. C'est comme si, en fait, les choses graves, elles étaient que graves en fonction de ce qui est puni ou pas par la loi. Enfin, genre, l'inceste, c'est... Voilà, c'est une agression, une violence sexuelle reconnue, mais le climat incestuel, ça, c'est trop peu palpable pour que ça puisse être vraiment dénoncé. Et du coup, c'est comme si on devait caler nos souffrances et nos ressentis par rapport à ce que la loi, elle reconnaît ou pas. Mais en fait, la loi, enfin, je sais pas, le viol, ça a pas toujours été quelque chose reconnu comme étant un crime. Du coup, heureusement qu'on s'autorise à pas... caler nos vécus par rapport à ce qui est interdit ou pas, quoi.
Oui, parce qu'on serait, on serait un peu dans la merde.
On serait un peu dans la merde.
On l'est déjà, mais de fait, on serait encore plus.
Ouais.
Ouais, et un jour, enfin, le seul truc que ma mère, elle a dit un peu, genre, dans mon sens, c'est un jour dans une conversation où ça parlait de pédophilie, ma mère, elle a dit, ouais, non, mais en fait, les pédophiles, c'est pas les gens qu'on croit, hein. C'est des bons pères de famille, hein.
Waouh.
Fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Tout au long de cette émission, vous avez pu entendre en fil de fond la musique Gender du groupe Makoto San. Et vous avez aussi entendu une petite pause musicale avec Oh My God de Sef Dalisa. On va vous retrouver dans la prochaine pour aborder des nouveaux thèmes comme la psychophobie et les autres oppressions systémiques, la culpabilisation et la sacralisation de la famille. Dit comme ça, c'est un gros morceau, mais on a hâte de vous retrouver. Et pour finir cette émission, on vous laisse avec une musique bouleversante et magnifique qui s'appelle Dinosaur et qui est chantée par Kalika. À la prochaine fois et prenez bien soin de vous. Salut!
Qui reviennent encore et encore, des rêves de mon âge d'or, étoiles tyrannosaures qui défonçaient la table, balançaient mon cartable comme si c'était. Croire que je suis que dalle. Je me souviens encore de mon tout petit corps, oh, de mon gros vélo jaune et de mon grand trésor que j'appelais papa. T'es pas venu me voir, oh, pour me consoler, non, mais pour me faire pleurer, ouais. Maintenant, je rêve de dinosaures et de ta chaîne en or qui a frôlé mon corps quand j'ai frôlé la mort. On danse sous la pluie, papa, même si ça ne me plaît pas. Je suis lié à toi par la marque de tes doigts. Je me souviens encore de mon tout petit corps, de mon gros vélo jaune et de mon grand trésor que j'appelais papa. T'es pas venu me voir pour me consoler, non, mais pour me faire pleurer, ouais. Oh. Ooh.